Dragolski, bienvenue dans notre studio de Fréquence Mistral. Donc, est-ce qu'on peut dire que vous êtes écrivain maintenant, hein, depuis le temps Troisième livre que vous allez nous présenter aujourd'hui. On rappelle donc le premier, c'était Traversée basalpine.
Oui, sur les montagnes et rivières du département.
Et puis le second, donc...
Alors le second, Divine Clarée, c'est un peu un voyage dans la vallée de Névache à travers toutes les chapelles qui parsèment cette vallée. Et c'est à la fois un guide touristique et aussi ça raconte autour de ces chapelles le passé, la religion, la vie des gens, la construction, les coutumes. C'est un peu un petit guide.
Et ce troisième livre, donc, Passer quand tu nous tiens. Alors, un joli titre. Est-ce que c'est aussi en vers, en prose?
Alors, c'est en vers, encore une fois, mais c'est quand même extrêmement particulier. La plupart des poètes, surtout de nos jours, n'écrivent que sur eux-mêmes et leurs propres soucis, fantasmes ou rêves, que des vers souvent incompréhensibles. Là, c'est vraiment un livre qui a un sujet précis. En fait, c'est la géologie et la paléontologie. Et vous savez que dans le département, c'est quelque chose qui est très visible. On a la réserve géologique, enfin bon, je ne vais pas vous faire un dessin. Là, le sous-sol, on le voit de partout. Et on voit devant nous le passé de la Terre, qui est une chose très importante. On s'en rend compte aujourd'hui, lorsqu'on parle maintenant de l'évolution, du réchauffement climatique, on se rend compte que l'histoire du passé, c'est vraiment très important parce qu'elle conditionne notre avenir. D'où le titre « Passé ». Quand tu nous tiens, on est tenu par le passé. L'avenir, il n'est pas toujours visible, on ne le connaît pas. Mais le passé, on le connaît. Et c'est un petit peu notre source d'inspiration pour décider de notre futur. Donc ce livre, c'est un livre de vulgarisation scientifique, réellement, sauf qu'il est écrit en vers. Je précise qu'il est quand même passé dans les mains de nos éminents et érudits géologues locaux pour qu'il n'y ait pas d'erreur au niveau scientifique. Donc c'est pas... C'est pas seulement de la poésie comme ça, ça se veut pédagogique. Et je souhaite d'ailleurs le mettre entre les mains éventuellement des enseignants, plutôt au niveau collège ou même d'universitaires, etc. Car lorsqu'on prend un livre de géologie, je ne vous parle pas d'une thèse d'université, même un livre très simple, hein, de vulgarisation, tous les géologues le reconnaissent, on est noyé très vite. On perd pied, c'est très compliqué. Donc j'ai surtout essayé de simplifier au maximum en montrant, et c'est ça je crois le plus important dans le livre, que tout est mouvement. Hein, c'est-à-dire, nous on a l'impression que les choses ne bougent pas. Mais en fait, tout bouge, plus ou moins vite. Hein, parfois ça ne bouge pas pendant des milliers, des millions d'années. Et puis tout d'un coup, ça bouge. Hein. On connaît l'histoire des dinosaures maintenant. On connaît ou on pressent que nous aussi, on va être peut-être soumis à des fractures terribles. Donc, c'est le mouvement. Voilà. Ce qui est très important dans ce livre, c'est le mouvement. Et beaucoup de poèmes, ils bougent. Hein. Ils dansent, ils bougent, comme l'évolution le fait tous les jours devant nos yeux.
Alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut prendre au milieu du livre et commencer à lire un poème là, ou est-ce que ça se tient?
Oui, non, je pense que chaque poème a son unité. Oui, on peut le lire à part. Il y a une table des matières, on peut choisir. Ouais. Disons que j'aborde certainement pas tous les thèmes possibles, mais j'en aborde beaucoup. Je parle aussi des hommes de science. Hein. Par exemple, je parle de Charles Darwin, je parle de Teilhard de Chardin, enfin, de grands personnages qui ont été un peu à l'origine de la connaissance de ce passé. Donc il y a aussi des poèmes dédiés à eux. Non, on peut le lire à la suite, et on peut le lire un par un, bien entendu. Il y a des sujets... j'ai aussi, comment ça s'appelle, une liste de poèmes qui s'appelle « État des lieux » qui sont sur des endroits précis. Il y a les Robines, il y a le Grand Canyon du Verdon, par exemple. Il y a les Poudingues qui forment les Rochers des Mets. Il y a le gypse, hein, les mines de gypse qui ont donné le plâtre, etc. Bon, voilà, il y a aussi, je fais référence à nos richesses locales, hein, qui sont très importantes.
Donc pour réaliser ce livre, vous avez fait des recherches vous-même sur...
Alors oui, je me suis appuyé d'abord sur ma connaissance de promeneur, hein, comme tout le monde, et qui a vu les choses. Et puis j'ai fait des recherches, j'ai consulté. Il y a à la fin une véritable bibliographie. scientifique hein, sur lequel je me suis appuyé. Oui, c'est quand même... c'est posé, quand même. C'est réfléchi, voilà. Ce ne sont pas des vers au hasard, c'est réfléchi, je pense. Le but étant pédagogique. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas raconter n'importe quoi.
Donc, vous allez faire des démarches auprès des écoles,
sans
des
aucun enseignants. Doute. Sans aucun doute. Ce n'est pas pour faire des lectures moi-même, oui. Hein, moi, je m'en fous. C'est vraiment leur proposer un complément, hein, bien sûr. C'est, je ne vais pas remplacer les livres pédagogiques, les scientifiques, les grands savants. Ce n'est pas du tout ça. Mais c'est pour permettre à tout le monde de mieux comprendre comment ça fonctionne. Hein, de mieux comprendre. C'est pas la géologie pour les nuls hein, non plus. Hein, c'est il y a des choses un peu compliquées. Alors il y a des notes. Hein, c'est-à-dire qu'à chaque poème, dès qu'il y avait un mot particulier qui pouvait ne pas être compris, il y a une note. Il y a une note qui explique quand même de quoi ça parle. Hein.
Alors, évidemment, je serais curieuse d'en entendre un extrait.
Ah oui, bien sûr.
Par exemple, les robines, ça m'intéresse bien.
Ces
terres noires, on a l'impression que rien ne pousse.
Eh bien, voilà. Alors, je vous le lis.
Oui.
Quand nous étions petits, ces collines noirâtres étaient pour nous gamins un vrai terrain de jeu que ma mère appelait les grands dos d'éléphants. On y jouait Zorro, Rintintin, aux Indiens, couvert de la peinture des fruits mûrs d'un mûrier. Plus tard, je l'ai appris, je sus que les robines étaient constituées des corps passés et vieux de défunts animaux et aussi de vieux restes de plantes disparues. Certains, les voyant noirs, ont pensé aux terrils qui ressemblent si fort. Mais ces formations-là n'ont pas été le fruit de l'esclavage humain, mais du dépôt très long de la vie du passé. On y trouve écrasés bélemnites, ammonites, vertèbres de poissons, végétaux sous-marins et des êtres inconnus, du moins pour le profane. Et fort heureusement, sa teneur en charbon étant inexistante, nous n'avons pas eu droit à une exploitation laquelle aurait détruit ces lieux particuliers.
Et bien voilà qui donne
les robines.
Vraiment un beau portrait de
voilà
ces
donc,
robines.
Voilà, on parle des terrains de jeu parce que tous les enfants ont couru là-dedans. Maintenant, il y a les VTT aussi qui font une terre noire, bien sûr. Et en même temps, oui, c'est très riche de fossiles. Et les gens croient qu'il y a du charbon. Effectivement, il n'y a pas de charbon. Et c'est heureux. C'est heureux parce que parfois, ça... Imaginez les mines à ciel ouvert. Alors ça, c'est un texte assez facile. Hein, il est un peu, on joue un peu, quoi. Voilà. Et puis d'autres sont plus techniques, bien entendu.
Alors, j'aimerais bien en entendre un plus technique.
Oh, oulala, un
plus Pierre technique. Pierre Ragolski, donc.
Plus technique.
Passer quand tu nous tiens.
Voilà. Alors, un plus technique.
Oh. Ou un de votre choix.
Oui, mais écoutez, je vais vous lire un truc. Alors ça, c'est du Victor Hugo, carrément. Tout le monde a entendu parler, bien sûr, de nos jours, de l'extinction des dinosaures.
Oui.
Bien entendu. Alors ça s'appelle Apocalypse, et c'est vraiment dans le style du 19e. Mais vous allez voir la chute. Et des flots monstrueux envahirent la terre. Un ciel d'un feu ardent foudroya les forêts. Des poissons morts tombés sur la verte prairie. Et l'eau des fleuves en crue était d'un noir de mort. Un néant poussiéreux enveloppa la terre et cacha du soleil les rayons vivifiants. Le jour devint la nuit dura sans fin, et les feuilles pâlirent sur les arbustes secs. Les jolis papillons étaient désagrégés, leurs ailes vitraillées en étaient mitraillées. Et les géants reptiles qui régnaient sur le monde hurlèrent en tremblant à la face des cieux. Perdus dans un brouillard de poussière et de suie, sans savoir que leur corps, si grand et si puissant, serait un jour squelette adulé par les foules ou des jouets en plastique pour les enfants des riches dans un monde nouveau qu'ils ne connaîtraient pas. Donc là, je pastiche carrément les poètes du 19e. Mais bon, c'est quand même... Oui, c'est une apocalypse pour la fin du monde, pour ces dinosaures, qui nous a permis, nous, paraît-il, d'être là et de croître. Voilà. Alors, il y a des trucs sur la stratigraphie, sur les sédiments, sur l'érosion. Bon, voilà, hein, il y a toutes sortes de thèmes. Voilà.
Elena.
Oui, je me demandais, comment vous est venue l'idée de faire ce livre ? Est-ce que vous-même, vous avez vécu cette difficulté de rentrer dans un livre de géologie ? C'est comme ça
Alors, sans aucun doute, oui, j'ai vécu cette difficulté. J'ai une formation quand même correcte, hein, au niveau études. J'ai du vocabulaire, etc. À cause de mon père, j'ai fait du français, du latin, du grec. Bon, je comprends l'étymologie des mots, mais malgré tout, je suis très vite noyé. Et c'est un thème très courant. Je fais partie de l'association des Vallées du Bess, et c'est une association où la partie... le terrain, le paysage, la géologie est très importante. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour eux, une fois, j'ai écrit un texte. Et puis du coup, ben, j'écris tous les autres. Et j'écris très vite. Hein. Comme je dis, j'ai mis 70 ans à le concevoir dans ma tête, 7 mois à le présenter à l'imprimeur, la mise en forme, mais la totalité du temps consacré à l'écriture même, ça peut paraître étonnant, c'est 2 heures. En tout. Ça va très très vite. Parce que c'est l'accumulation. Hein. Je suis vieux hein, quand même, donc forcément... Non, mais j'ai accumulé des choses et après, ça sort. Après, il y a la technique, bien sûr, il y a la technique. C'est une technique, hein, la poésie. Voilà.
Donc, ce livre passé, quand tu nous tiens, on le trouve où ?
Alors, il est déjà déposé aux 2 librairies de Digne, hein, la librairie de la Presse et la librairie de la Ruelle. Voilà. Voilà. Pour le moment, bon, ensuite, je ferai sûrement des présentations ailleurs. Il y aura la médiathèque, des lectures, avec la réserve, je verrai. Bon, voilà, voilà.
Et donc, vous l'avez auto-publié. Est-ce que vous avez essayé de le présenter à des éditeurs aussi ?
Non, non, je n'ai pas du tout cherché à avoir des éditeurs. Je l'ai auto-publié. Je connais suffisamment l'informatique et tout pour produire un document imprimable. Voilà, voilà.
Mais voilà. Pourquoi ce choix, peut-être, d'avoir choisi de l'auto-publier ?
Alors, il y a un choix économique, ça gagne du temps. Hein. Ça gagne de l'argent. Il y a un choix de temps, parce qu'avec un éditeur, lui, il a sa programmation. Et donc, ça prend du temps. Là, c'est plus rapide. Bon, je n'ai rien contre les éditeurs, j'en connais, hein, ce n'est pas un problème. Mais bon, pour le moment, j'en suis là.
Si c'est pratique, voilà. Pourquoi s'en priver ?
Oui, les méthodes maintenant modernes, entre l'ordinateur qu'on a chez soi et les imprimantes que possèdent les imprimeurs, c'est sûr que... Voilà. Mais ceci dit, peut-être qu'un jour, j'aurai recours à un éditeur. Hein, voilà. J'en connais quelques-uns sur la région hein, qui... fonctionne. Voilà.
Parce que là, pour l'instant, ça veut dire que vous le faites en un certain nombre d'exemplaires.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et puis, je fais ma commercialisation. Hein. Je participe à des salons du livre, des lectures. Je fais du mailing. Oui, bon, je me débrouille tout seul. C'est sûr que... Bon, c'est pareil. Enfin, de toute façon, j'ai aucune ambition financière là-dedans. Hein. Le but, c'est uniquement de partager. C'est tout. C'est évident. Si gagner de l'argent avec la poésie... c'était possible, ça se saurait depuis longtemps.
C'est sûr.
C'est sûr, voilà, voilà.
Donc, Passé quand tu nous tiens, un livre pédagogique et poétique, on trouve donc sur le territoire de Haute-Provence.
Oui, mais bien sûr. Je le mettrai dans d'autres librairies, naturellement.
Voilà. Est-ce qu'on peut parler déjà de la suite de ce que vous avez comme projet ou c'est trop tôt ?
Oui, non, non, c'est pas trop tôt. Au printemps, je vais publier un livre qui s'appelle 108 fleurs, qui est un pavé, hein, il fait beaucoup de pages, qui donc, il y a 108 poèmes dédiés à des fleurs, où j'évoque à travers ces textes ben, tout ce qu'on peut dire autour des fleurs, hein, leur aspect, leur biologie, le symbolisme des couleurs... comment on les mange, comment on les cherche, comment on les identifie, enfin, c'est un peu varié, hein, voilà, donc, et puis j'ai aussi en préparation, lui, il est aussi, le livre des fleurs est fini, un livre sur les refuges de haute montagne où je suis allé, avec autour, bien sûr, des réflexions sur la montagne, sur la façon qu'on a de la voir, puis sur les randonnées, l'escalade, l'alpinisme, etc., quoi. Et ce livre va être publié, je pense, à l'automne prochain.
Vous n'arrêtez jamais.
Oh, j'ai pas que ça à faire, mais bon, ça va. C'est pas difficile.
Vous avez depuis toujours été amoureux de la nature, sensible.
Bien sûr.
Et vous êtes un randonneur, est-ce qu'on peut dire ça comme ça ?
Je fais de la randonnée, de l'alpinisme. Je fais beaucoup moins d'escalade maintenant, mais enfin oui, je connais bien le coin, ça c'est sûr. Hein. Quand je regarde, je suis en haut du Cousson. Je ne vois pas de sommet que je n'ai pas fait, hein, c'est sûr. Enfin, je ne suis pas non plus... Ce n'est pas extraordinaire ce que je fais. Mais voilà.
Est-ce qu'on peut dire quand même que vous êtes le père d'un jeune champion quand même du monde de parapente, c'est ça exact.
Oui, on peut le dire.
Quand même.
Bien sûr. Voilà.
Est-ce que vous lui avez transmis ce goût du grand air?
Oui, je crois. Lorsqu'il fait du parapente, que ce soit ici ou dans l'Himalaya, on sent un amour de la nature très fort. Hein, c'est une émotion chez lui, il n'y a aucun doute.
Son prénom, c'est
François.
François Ragolski, voilà. Donc champion du monde de parapente.
Et oui.
Ouais. Et votre fille, elle est sensible aussi à la nature?
Ah, très sensible. Elle est incapable, comme on dit, de rester le cul sur une chaise, pour dire les choses clairement. Elle est monitrice de ski aussi. Mm-hmm. Et oui, elle adore la montagne. Même de partir en groupe, même seule, hein, ça lui arrive de partir en montagne. Enfin, c'est vraiment, elle adore ça, quoi. Elle n'a jamais aimé les villes. Hein. Elle est très, très bien dans la nature.
Elena, est-ce qu'il y a des questions?
Non, là, je crois que...
Tout est dit. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter, Pierre?
Non, je crois que tout est dit. On
hein, va donc, on peut retrouver donc, votre livre, troisième livre, « Passé quand tu nous tiens », autoproduit. Donc, on le retrouve donc à la Maison de la Presse et à la librairie La Ruelle à Digne-les-Bains. Le prix
18 €.
18 euros, tout à fait abordable et une bonne idée de cadeau de Noël encore. Pierre, merci. Et puis, est-ce qu'il y a un site ou un Facebook où on a votre actualité?
Je publie sur les réseaux Facebook, je suis sur Facebook. Je n'ai pas fait de site pour le moment. Effectivement, il faudrait peut-être que j'en fasse un. Voilà.
Bon.
Maintenant que j'ai de la matière.
Voilà. Eh bien, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël. Et puis,
aussi,
à bientôt.
Merci beaucoup.
Au revoir.